il est 23h.
Parlons vrai. 22h minuit, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Et oui, nous avons sans cesse dans la vie des choix à faire, que ce soit dans tous les domaines. Aujourd'hui, évidemment, on parle plus particulièrement des décisions que l'on prend dans le domaine affectif, qui est peut-être encore plus, trouble, parce que c'est pas simple de savoir exactement ce qu'on veut, étant donné que quand on tombe amoureux, on a quand même toujours envie de croire que c'est la bonne personne. Yves-Alexandre Talman est avec nous, psychologue spécialiste en développement personnel et auteur de nombreux ouvrages, notamment accepter pour être heureux, et c'est peut-être aussi important de le rappeler, hein. On a entendu tout à l'heure Fred qui parlait du fait qu'on était parfois son pire ennemi, et si on est son pire ennemi, évidemment on n'est pas sûr de prendre les bonnes décisions, n'est-ce pas Yves-Alexandre Talman?
Effectivement, mais il y a de l'espoir, parce que si on est son pire ennemi, ou en tout cas un ennemi pour soi-même, rien n'empêche aussi que l'on apprenne à devenir un ami. J'aime bien l'expression d'être en bonne compagnie avec soi-même, quand on a du temps mignon à perdre, et puis qu'on peut penser, si on a des pensées qui sont plutôt favorables, eh ben ça aide quand même à vivre des moments plus agréables.
Mais c'est vrai que ces choix qu'on fait qui nous mettent en échec, c'est parfois des choix comme si on n'était pas fait pour réussir, comme si on avait un lien de loyauté vis-à-vis de ses parents. Enfin, il y a tout ça aussi, hein, qui entre en jeu dans nos décisions.
Oui, il y a un passif quelque part. Hein, On peut réfléchir avec l'idée d'éviter la souffrance. Hein. Je crois que ça paraît assez évident que notre cerveau va nous amener plutôt à prendre des décisions pour éviter de souffrir. Mais parfois, on choisit, pour éviter une souffrance qui nous paraît immense, une autre souffrance. Et celle-ci, avec le temps, bien sûr, elle creuse son sillon et puis ça se révèle être beaucoup plus problématique. C'est pour ça qu'on a ces fameuses croyances, hein, qui restent dans un coin de notre esprit, puis qui nous amènent à prendre des décisions à répétition, hein, qui nous amènent à souffrir, mais peut-être qu'elles nous protègent de quelque chose de pire, hein, qui nous effraie en tout cas beaucoup plus.
Oui, absolument. Alors la réponse à ma devinette, pourquoi les hommes auraient intérêt à emmener leurs femmes en club naturiste?
Je crois que j'ai pas la réponse à la binette, mais j'ai par contre une bonne réponse à la question.
Oui, allez-y.
C'est que si on parle d'un club naturiste qui se respecte, pas d'une plage nudiste, hein, d'un club naturiste qui se respecte, c'est souvent des endroits familiaux et les hommes seuls sont pas forcément les bienvenus. Donc y aller avec sa compagne, c'est le ticket d'entrée.
N'est-ce pas? Bon, en fait, la bonne réponse, évidemment, c'est pas celle-là, hein. C'est simplement parce que comme ça, elle ne pourra pas se plaindre de n'avoir rien à se mettre. Vous savez que les femmes se plaignent toujours de ne pas savoir quoi mettre, si on l'emmène dans un club naturiste. Il n'y aura pas de ce genre de problème, voilà. Marc est avec nous. Bonjour Marc.
Bonjour Brigitte, bonjour Yves-Alexandre.
Bonjour.
Alors, effectivement, la décision, un jour peut être très bonne à prendre, et puis avec le temps, on s'aperçoit que ce n'était pas forcément la meilleure décision à prendre. Et moi, j'ai souvent ressenti ça dans mes différentes relations amoureuses, où je pensais faire le bon choix de mes partenaires, ou ne pas être seul, et ainsi de suite, de vivre un moment agréable. Et puis, à la fin, me dire que c'est pas forcément la personne que j'attendais absolument. Et finalement, quand il y a la rupture, que ça se termine, de se dire, bon, est-ce que j'avais fait le bon choix, est-ce que je faisais le bon choix de la rupture par moment, et voilà, j'ai connu ça plusieurs fois dans ma vie, et puis là je suis en train peut-être de reproduire la même chose encore dans mon couple.
C'est-à-dire, vous êtes en train de peut-être vouloir rompre
Voilà, par rapport à la situation dans laquelle on est, la question arrive de se dire, on a vécu des bonnes choses, mais la communication est compliquée et finalement, on est peut-être, si on reste, on est là peut-être pour plus souffrir que de profiter. Et du coup, la question se pose, est-ce que faut-il continuer, arrêter, sachant qu'il y a des hauts et des bas en permanence. Enfin, en permanence, il y a souvent des hauts et des bas et ça crée des tensions. Et vers le moment, il faut prendre la bonne décision.
Oui, vous savez Marc, quand on commence à se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de rester, c'est que déjà quand même il y a des tas de choses qui ne vont plus. quand on en arrive à se la poser, cette question-là, c'est que quelque part, il y a quand même déjà des mois, voire des années qui posent problème. Donc là, ce qu'il faut, c'est encore une fois, peut-être d'abord essayer de communiquer ensemble et voir qu'est-ce qui ne va pas et s'il y a moyen de dépasser ce qui ne va pas. Mais je suppose que ça, vous l'avez déjà fait.
Oui, tout à fait. Ça, j'adore communiquer. Après, le problème, c'est la compréhension entre les hommes et les femmes. C'est pas forcément toujours aisé. Et c'est pas toujours la même signification des termes. Oui, je veux communiquer. On essaye de communiquer, mais parfois dans la communication, on n'arrive pas à être même sur le même niveau de compréhension. Et du coup, ça crée des tensions supplémentaires. Et là où moi personnellement j'essaye de vraiment de mettre des mots sur des choses, parfois factuelles, parfois sur de l'émotion, le message n'est pas forcément perçu et voilà. Après j'ai également ma part de responsabilité là-dedans, bien évidemment, mais c'est le fait de se dire on n'arrive pas à se mettre d'accord, à s'accorder, ne serait-ce que dans des explications, et c'est très perturbant.
Ce que j'entends, et après je donne la parole à Yves-Alexandre Talman qui a certainement entendu beaucoup de choses aussi, ce que j'entends c'est que de toute façon vous répétez toujours ce sentiment de devoir partir au bout d'un certain temps dans une relation, c'est-à-dire que c'est pas la première fois que vous êtes dans ce sentiment que ça sert plus à rien de rester, qu'il faut peut-être partir et qu'en même temps vous n'arrivez pas vraiment à prendre cette décision, il me semble.
Disons qu'il y a des relations où c'est la personne qui a mis fin à la relation, d'autres où c'est moi qui ai mis fin, d'autres où ça paraissait évident qu'on pouvait pas aller plus loin pour différentes raisons. Après là c'est une longue relation, il y a des enfants, voilà, il y a pas mal de choses, donc c'est une nouveauté pour moi, on va dire, le stade dans lequel je suis, parce que pour moi chaque relation est différente, et c'est de se dire on s'entend bien sur des choses, mais sur d'autres, sur des détails entre guillemets, c'est des incompréhensions, et c'est ne plus être capable d'être à l'écoute de l'autre, d'entendre, et les tensions qui vont avec.
Bien sûr. Yves-Alexandre ?
Comme dans ce que j'entends, il y a des bons côtés. Hein, il n'y a pas que des tensions, des incompréhensions. Je me dis que si ce n'a pas été fait, le fait d'aller trouver en couple quelqu'un, un professionnel, peut aussi donner un éclairage, comme on le disait tout à l'heure, avec un petit peu de recul. Parce que quand on est pris dans ses propres fonctionnements, avec son partenaire, on va se retrouver à dire des choses ou à réagir d'une certaine façon. Mais de le faire en présence de quelqu'un qui nous rend attentif et qui nous donne peut-être des pistes alternatives, ça peut, je vais pas dire sauver le couple, c'est pas le but, mais peut-être donner d'autres types de comportements pour essayer d'enrayer certains cercles vicieux, pour après prendre une décision encore plus éclairée.
Moi, ce que j'ai tendance à dire, Marc, quand on est dans cette hésitation, qui est pénible d'ailleurs, parce que c'est pas confortable pour sa sécurité affective, ce genre de situation. Mais j'ai quand même tendance à dire qu'il faut pas précipiter les choses. C'est-à-dire qu'il sera toujours temps de partir quand vraiment ça semble évident. Et peut-être que c'est une phase dans laquelle il faut un petit peu attendre. Il y a un peu d'incertitude des deux côtés. Voilà le conseil que je pourrais donner.
Oui, je vous en prie. Pardon, il y a l'incertitude un peu des deux côtés. Il y a surtout le fait aussi que, au bout d'un moment, comme je disais tout à l'heure, on n'arrive pas à s'entendre. Moi, je peux dire éventuellement les choses dont je pourrais avoir besoin, exprimer. Ma compagne n'entend pas forcément ça. Des moments, elle me dit très elle-même qu'elle n'est plus en capacité de, soit d'avoir entre guillemets une pseudo-empathie pour moi, ou d'essayer de comprendre une situation. Bien sûr que ça me fait mal, et moi derrière peut-être de pas non plus répondre à ce qu'elle peut attendre. Et c'est là, on a des bons moments, mais c'est arrivé à se dire, mais est-ce que ça va continuer comme ça tous les jours? Est-ce que un jour sur deux, on va se refaire la tête? Est-ce qu'on en arrive là? Et ce qui est dur pour moi, c'est que je préférerais quelque chose de franc, net et direct, on va dire, dans une décision.
Oui,
peut-être même être lâche et dire à pas prendre la décision et de juste la subir. Et puis voilà. et de se dire, mais je sais
que... Oui, mais Marc, ce que j'entends, c'est qu'il y a des... Comment dirais-je? Il y a des fantômes dans le placard, là. Il faut peut-être que vous arriviez à mettre... enfin, à vous dire franchement ce qui... Toutes les rancœurs qui se sont accumulées et voir si ça vous permet de repartir sur d'autres bases. Il y a peut-être eu justement trop de non-dits, trop de choses qui n'ont pas été nettoyées.
Là, je pense qu'il y a une part, effectivement, on s'est dit énormément de choses, ce qui n'allait pas dans notre couple, ce qui n'allait pas chez nous, chez l'autre. Il y a aussi effectivement des fantômes ou des cadavres qui réapparaissent au fur et à mesure que le temps passe sur sa propre personne, se redécouvrir. Mais voilà, c'est comme si effectivement quelque chose était vraiment essoufflé et...
Oui. Mais est-ce que vous avez encore des projets communs? Est-ce que vous avez encore des valeurs communes et une vision commune de votre futur? Parce que c'est aussi ça qui permet à un couple de continuer.
Bah, je dirais honnêtement, en toute honnêteté, pas forcément. Moi, je suis même parfois à reculons, à pas pouvoir me projeter sur des projets de grande envergure. Ça puisse être, par exemple, des vacances quelque part, je sais pas où, voilà, ou des choses comme ça. Et peut-être à plus se voir au jour le jour et me dire, bah tiens, j'aimerais bien avoir peut-être une sécurité, on va dire, affective et sexuelle et autres, et me dire, je me sens bien pendant 2-3 semaines, etc.
Bon, je vais évidemment demander l'avis d'Yves Alexandre Talman, mais moi, ce que j'entends, c'est que de toute façon, vous êtes déjà parti. Yves Alexandre Talman, qu'est-ce que vous diriez?
Ça semble aller dans cette direction-là. Mais j'abonde aussi dans votre sens qu'on sent qu'il y a des éléments, enfin les fameux fantômes dans le placard qui hantent l'esprit, qui hantent la relation, et que peu importe la décision, partir, rester, les fantômes vont pas se dissiper pour autant. Peut-être ceux de la relation, oui, mais les fantômes personnels, eux, ils ont tendance à nous suivre où qu'on aille. Et ça vaut quand même la peine, certainement, que de creuser dans cette direction-là.
Oui, donc en fait, on pourrait conseiller Marc d'aller au moins consulter seul pour essayer d'être un peu plus clair et puis d'éclairer justement ce placard dans lequel rôdent des fantômes. Et puis ensuite, ça sera plus simple sans doute de prendre votre décision. Merci en tout cas de vous être confié à nous. On fait une petite pause et Muriel nous rejoint. Bah oui, elle aussi, elle prend souvent des mauvaises décisions. Mais rassurez-vous Muriel, on est tous pareils. On se retrouve dans un instant.
Sud Radio Béziers.
102.6.
Sud Radio.
Je crois que la nana venait du Connecticut. On peut dire que la vie lui mettait des supercuts. Sa veste dans le diner à coup des beaux motels. Elle porte un tablier qui la rend super belle. Quand les clients arrivent, ils commandent des meatballs. Le regard dirigé vers le match de baseball. Personne ne la regarde, pourtant c'est une beauté. Une femme ordinaire que l'on a sous-côté. Mais dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir qu'elle a le méga style. Dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir cette danseuse étoile. Qui danse? Scénariste, ça break, ça danse, on est dans la street. Les groupes se forment, y'a des gars, des filles. Y'a du rap rock, y'a des défis. Et puis y'a ce mec en apesanteur, moitié condor et moitié breaker. Un performeur, je te le jure, j'insiste, c'est un danseur unijambiste. Personne ne demande ce qu'il fait là. Ici on se fout des vuvuzelas. Avec Becky, il devient gymnaste. Il gère l'espace, il est trop classe quand il danse. Naturel, ça sonne comme une évidence. Il danse, quelle que soit la distance. La transe est un dialogue qui crée la correspondance. Il danse pour leur indépendance. Qu'importe la gouvernance, quelle que soit la présidence. Il danse sur champ de résistance. La danse de la pluie pour amener l'abondance. Il danse. We'll be right back.
22h minuit, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Yves-Alexandre Talman est avec nous, psychologue, spécialiste en développement personnel, auteur de « Qu'est-ce qu'on peut être con ?» aux éditions Mardaga. Et on retrouve maintenant Muriel. Bonjour Muriel.
Bonjour Brigitte. Bonjour Yves-Alexandre Talman.
Bonjour.
Alors merci d'être avec nous Muriel. Et vous considérez que vous prenez toujours les mauvaises décisions parce que vous avez peur du changement, hein, c'est ça ?
Oui, alors pas toujours parce que il y a mon ego aussi qui parle, hein, mais des décisions parfois oui, mais pas plus tard qu'hier, j'ai été prendre rendez-vous chez un ostéopathe. Alors je sais éperdument qu'à chaque fois que je sors, je le connais depuis très longtemps. Je sors de là, je suis en colère parce qu'en fait le soin est très rapide, il répond au téléphone, il va faire deux petites courses à côté. Ben voilà. Donc à chaque fois je râle, mais je ne peux pas me détacher, me dire bah, tu vas appeler quelqu'un d'autre. Alors peut-être par peur de l'inconnu aussi. Voilà, donc à chaque fois, et là je me suis dit, écoute, maintenant c'est ta faute, hein, donc tu ne râleras pas. Voilà, je me suis conditionnée.
Ouais, ouais, voilà. Oui, voilà. C'est curieux, c'est curieux parce que là c'est pas très compliqué d'aller voir quelqu'un d'autre à partir du moment où celui-là ne correspond pas à votre attente.
C'est clair. Alors, je pense qu'il y a un aura qui est tel, parce que je trouve qu'il est, c'est un très bon professionnel, qui est reconnu, il intervient dans une école d'ostéopathie. Donc, est-ce que c'est ça qui me rassure aussi? Parce que je me dis, ma foi, ben, quand même, c'est quelqu'un qui maîtrise, qui... Alors, est-ce que c'est ça, alors qu'il y a des jeunes qui commencent, qui méritent autant...
Il est évident que, visiblement, vous ne sortez pas satisfaite du soin. Donc, ça veut bien dire que il n'est pas bon pour vous, ce qui est peut-être charismatique. Mais il n'est pas bon pour vous. Alors peut-être que vous êtes un peu sous l'emprise du fait qu'il ait une certaine aura. Vous voyez,
c'est ce que je pense. J'ai réfléchi aujourd'hui, je me suis dit mais pourquoi tu t'acharnes? Et je pense, en réfléchissant aujourd'hui, je me suis dit est-ce que c'est pas ça qui fait que ça te fait passer tout le reste finalement? Je sais pas.
Oui, mais c'est possible. Est-ce que vous avez tendance à respecter l'autorité un peu trop, vous voyez, respecter un petit peu trop les personnes qui ont une certaine influence? Enfin, est-ce que vous êtes un petit peu timide? Enfin, un petit peu dans.
J'ai tendance au contraire. J'ai tendance à dire dès que ça va pas, quelle que soit la personne que j'ai en face. Au contraire, justement. C'est paradoxal.
Bon. Alors, est-ce que vous êtes inconsciemment amoureuse de cet homme?
À croire.
Yves-Alexandre Talman, qu'est-ce que vous diriez à Muriel?
Alors, sans entrer dans les couches plus profondes de la psyché, ce que je pourrais conseiller, comme ça paraît difficile de ne pas aller chez ce professionnel, rien ne dit que Muriel ne puisse pas aller chez un nouveau professionnel. Autrement dit, essayez de prendre rendez-vous chez, ben, on va dire, un jeune ostéopathe ou un autre. Juste pour essayer, hein, sans forcément tirer un trait sur l'habituel,
celui-là,
entre guillemets.
Oui.
Et de faire l'expérience. Si vous ressortez en étant cette fois différente, en étant mieux, plus détendue, en n'étant pas contrarié, ça vous fait une expérience qui permet après de comparer et d'opérer le changement, le cas échéant.
Ah oui. D'accord. Et malgré moi, pourtant j'ai la liste. Alors je fais, mais ma main se dirige vers ce numéro-là et je me sens satisfaite une fois que j'ai pris rendez-vous. Alors je me dis mais quand même c'est très questionnant.
Ah, j'ai aussi un conseil alors pour cette question-là.
Oui.
Vu que vous avez la liste, vous donnez cette liste à une amie. Et vous lui confiez la tâche, puisque apparemment il y a une résistance, un blocage chez vous. Vous confiez la tâche à l'ami de choisir pour vous un autre professionnel, mais juste pour faire un essai. Hein. Il ne s'agit pas de changer quoi que ce soit, juste de faire pour une séance un essai et puis de voir ce qui se passe.
Oui, parce que si ça se trouve, c'est peut-être tout simplement parce que l'ostéopathie, vous trouvez que finalement ça vous soigne pas vraiment. Enfin, vous savez, parfois on a des raisons qui sont différentes de ce qu'on croit être la cause de notre déception.
Ah oui, peut-être aussi, oui. Ouais. J'avais pas pensé.
Je dis pas que c'est ça, hein. Je dis juste qu'il faut...
Mais pourtant j'y crois parce qu'il y a des résultats par rapport à mes pathologies. Il y a quand même du résultat au bout. Voilà. Donc, est-ce qu'inconsciemment, enfin, je sais pas.
Ou alors vous en attendez trop et vous êtes forcément déçu. Enfin, voyez, on peut trouver une multitude de réponses. Mais en effet, ce que vous propose Yves Alexandre Talman est intéressant. Allez en voir un autre, même si c'est quelqu'un d'autre que vous qui choisissez, et vous verrez bien comment vous ressortez. Si vous ressortez aussi déçu, c'est pas la même chose. Voyez.
Ça vient d'ailleurs. Oui, tout à fait.
Et puis peut-être qu'il faut en effet comprendre aussi qu'on aime bien nos habitudes, on aime bien aller chez le même commerçant, on aime bien se mettre à la même place dans le lit, on aime bien. Enfin, on est quand même des êtres très 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 coincés dans nos habitudes. Et je dis coincés exprès, hein, Yves-Alexandre Talman, c'est vrai.
C'est la même raison pour laquelle nous avons ces biais cognitifs. C'est en fait pour économiser de l'énergie. Maintenant, au niveau de notre société, on sait que l'énergie n'est pas forcément en quantité illimitée, en tout cas sous toutes ses formes, et donc qu'il faut faire attention avec les quantités que l'on a à disposition. Et pour notre cerveau, c'est la même chose. On n'a pas une infinité d'énergie, donc comment il s'y prend pour faire des économies? Il automatise des gestes, des séquences de gestes, des décisions, qu'on appelle les routines, les habitudes, mais aussi pour la pensée, de penser de façon biaisée, de façon stéréotypée, de façon plus rapide. Ça a toujours comme but l'économie d'énergie. Mais quand cette économie d'énergie se traduit par de l'insatisfaction, alors là, le calcul devient mauvais, et puis c'est le temps d'opérer un changement.
Voilà. Bon, écoutez, vous avez des pistes, et puis vous verrez bien qu'est-ce que ça donne, Muriel.
C'est clair, oui, après c'est rien de grave, mais c'est particulier, c'est questionnant.
Bon, merci en tout cas d'avoir échangé avec nous, Muriel, parce que sur des choses très simples comme ça, on peut aussi aider ceux qui nous écoutent à prendre de meilleures décisions. Vous allez faire, on va faire une petite pause, Yves-Alexandre Talman, et on va revenir sur un Love Conseil. On va parler de nos besoins relationnels, et je suis sûre que vous aurez beaucoup de choses à dire également sur ce Love Conseil.
Sud Radio Anglette.
103.9.
Sud Radio.
J'ai troqué mes cliques et mes claques. Contre des cloques et des flaques, mon sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine plus que la haine. Oh ma route, oh ma plaine, Dieu que je l'aime. Tourne et tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres, je m'en vais. Qui perle sur mon front, goutte de pluie, goutte de froid, donne des ailes, donne don, l'envie de m'éloigner de toi. Et mes larmes, et mes armes, sont ma peine plus que la haine. Et mes larmes, Dieu que j'ai mal, tourne et tourne dans ma tête. Images du long métrage où tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres, oh, je m'en vais. Du long métrage Je m'en vais.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, le Love Conseil.
Yves-Alexandre Talman est avec nous. On va parler de nos besoins relationnels. Yves-Alexandre Talman, c'est vrai qu'on connaît nos besoins de dormir, de boire, de manger et d'être aimé, hein, bien sûr. Mais sur les côtés, sur les besoins relationnels, on est finalement assez vague. On entend souvent j'ai besoin d'être aimé, bien sûr, certes. Mais il y a quand même quelque chose d'essentiel à comprendre, c'est que l'amour, ça ne comble jamais tous nos besoins relationnels. Donc c'est peut-être important de comprendre exactement de quoi on a besoin quand on est dans une relation. Il y a des personnes qui ont énormément besoin de se parler, hein, de se dire et d'être entendu, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs toujours la même chose. Il y en a qui ont besoin d'être admiré, d'être connu, d'être apprécié. D'autres qui ont réellement besoin beaucoup d'intimité, hein, c'est-à-dire à la fois de la tendresse, de la sexualité. D'autres qui vont avoir besoin de garder une certaine indépendance, avoir un vrai jardin secret, d'autres qui ont besoin d'avoir du pouvoir, en tout cas d'avoir la sensation d'avoir des responsabilités dans la relation. On peut aussi avoir le besoin d'avoir des fantasmes, ou en tout cas de se rêver un futur possible à deux. Donc tout ça c'est important parce que c'est pas forcément les mêmes, hein. On peut avoir des besoins qui ne sont pas les mêmes que ceux de notre partenaire, et pourquoi pas, c'est pas forcément incompatible. Mais c'est important peut-être d'être plus clair sur les besoins qu'on a soi-même, et puis peut-être aussi de pouvoir en parler avec l'autre pour voir si les besoins de l'autre, on peut les satisfaire ou il peut se les satisfaire autrement. Yves-Alexandre Talman.
J'ajouterai encore parmi toute la liste que vous avez citée le besoin de reconnaissance. J'ai remarqué, hein, notamment avec les couples que j'ai pu aider, que ce qui est important, c'est de paraître ou d'être, d'avoir l'impression d'être une personne bien dans le regard de l'autre. Alors ça vaut bien sûr aussi pour les amis. J'irai pas jusqu'à l'admiration, mais en tout cas...
Oh, presque, oui, oui, oui.
Ouais, hein, dans oui, certains oui, cas, oui, on oui. peut aller jusque-là. Oui. Hein. Mais, oui. mais de voir que nos amis, nos proches, alors peut-être certains membres de notre famille, mais surtout nos partenaires amoureux, quand ils s'adressent à nous, quand ils nous regardent, ils s'adressent à quelqu'un de bien. On a l'impression d'être quelqu'un de bien qui a de la valeur, hein, estime de soi, on retrouve le terme ici. Et souvent, quand les couples commencent à dysfonctionner, c'est ça qui disparaît. On voit l'autre à travers ses défauts, à travers ses problèmes, et puis ça crée de la distance. Et il n'y a rien de tel, hein, pour ouvrir les portes, hein, de l'infidélité, où on va retrouver dans le regard de quelqu'un d'autre cette impression d'être quelqu'un de bien et d'avoir de la valeur. Donc parmi tous ces besoins relationnels, moi, j'aime bien aussi souligner celui-ci, hein, le besoin d'estime et de reconnaissance.
Oui, oui, absolument. Alors, Marie nous rejoint. Bonjour, Marie.
Oui, bonjour, Brigitte, et bonjour, Yves-Alexandre.
Bonjour. Vous êtes en couple et vous avez peur de prendre une mauvaise décision. Donc, on vous écoute, Marie, allez-y.
Alors, c'est pas exactement le fait que j'ai peur de prendre une mauvaise décision aujourd'hui, mais j'ai failli, il y a quelques mois, prendre justement une mauvaise décision par rapport à mon conjoint. Donc, ma situation actuelle est que je vis seule avec ma fille, et il y a 6 mois de ça, mon conjoint vivait avec nous. Voilà, on s'est rencontrés il y a 2 ans et au bout d'un mois, il est venu vivre à la maison. Donc, on l'a accueilli avec plaisir. C'était un coup de foudre dès le début. Voilà, donc je l'aime, il m'aime, on se le prouve. Donc, jusque-là, tout allait bien. Et donc quand j'ai rencontré mon conjoint, il m'avait expliqué qu'il était en instance de divorce qui traînait. Et malheureusement, sa fille, préadolescente à cette époque, il y a 2 ans, n'avait pas voulu suivre son père et était restée vivre avec sa mère. Voilà, donc du coup, j'ai eu un début de relation pendant 1 an, donc avec mon conjoint, sans sa fille dans notre vie. Mmh. Et puis, du jour au lendemain, donc elle a décidé de venir vivre avec son père et plus avec sa mère, mais de vivre avec son père uniquement. Voilà, et pas avec moi et ma fille. Donc du coup, on s'est retrouvés dans une situation où il a dû prendre l'été dernier un appartement pour vivre avec sa fille. Donc on n'est pas très très loin, hein. On est à une vingtaine de minutes l'un de l'autre. Mais ça a quand même été un gros chamboulement dans notre couple. Et du coup, forcément, notre couple en a pâti. Voilà, donc il y a eu un manque de communication, un manque de présence, un manque d'affection dans le couple, et du coup on était redevenus au statut de parents chacun de son côté, mais le couple lui-même n'était plus vraiment là, donc il fallait presque se donner rendez-vous pour se voir, donc au bout d'un an.
Ce qu'il y a toujours de compliqué, Marie, c'est que là quelque part on a l'impression que sa fille devient votre rivale et c'est elle qui l'emporte, puisque c'est elle qui prend la décision d'éloigner son père de vous, quoi, donc. Et c'est vrai, moi j'ai quand même tendance à le dire, tant pis s'il y a des personnes qui seront choquées ou pas d'accord, j'ai quand même tendance à dire que c'est pas les enfants qui décident pour les parents, quoi.
Tout à fait. Et c'est vrai que lui, le fait donc que sa fille n'ait pas voulu le voir pendant plusieurs mois, voire une année, à cause du divorce avec sa mère.
Je comprends bien.
Ça se comprenait qu'il voulait un peu rattraper le tir et retrouver un peu des moments de complicité avec sa fille. Donc ça, je l'entends, c'est tout à son honneur de papa. Mais disons que il m'a mis de côté, il m'a mis au second plan. Et il aurait fallu qu'il trouve la solution à ce moment-là pour que tout le monde y trouve son compte et soit heureux. Et c'est vrai qu'il m'a un peu abandonnée. Ouais,
mais elle a quel âge, ta fille ?
Elle a 16 ans.
Oui, donc elle est capable d'entendre « Écoute, tu ne voulais pas vivre avec moi, je vis maintenant avec Marie, tu es la bienvenue. Mais bon... » Ouais. Et vous en êtes où alors aujourd'hui ?
Et du coup, voilà, donc l'année dernière, donc les 2-3 premiers mois de cette séparation, donc ça a été très brutal parce qu'on s'est mis ensemble de suite. Il est venu vivre à la maison et au bout d'un an passé, me retrouver seule à la maison le soir, ça a été un déchirement. Donc du coup, au bout de 3 mois de séparation, on va dire, de domicile, je lui exprimais mon chagrin, tout ce que je ressentais, et lui ne le voyait pas parce que du coup il était tellement focalisé sur cette nouvelle vie de papa à temps plein qui m'en oubliait complètement. Et puis il essayait de me rassurer en me disant non, ça change rien pour nous, mais ça changeait puisque on n'avait plus notre quotidien, on n'avait plus nos échanges, on partageait plus de vie de couple ni de vie intime. Donc évidemment qu'il y avait un changement, mais lui ne le voyait pas parce qu'il était omnubilé par la
oui, d'avoir retrouvé sa fille, oui.
D'avoir retrouvé sa fille, voilà. Donc si vous voulez, à 2 reprises l'année dernière, donc je pesais le pour et le contre. Est-ce que je vais le tolérer encore longtemps d'être loin de lui ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais être patiente ? Chose que je ne suis pas en temps normal, patiente. Donc du coup, on en a discuté. Donc il était aussi intelligent là-dessus. Il comprenait ma situation et il aurait été d'accord de qu'on se sépare, mais à contre-cœur, pour me faire plaisir à moi. Mais je sentais au fond de moi cette petite voix qui me disait « Ne le fais pas parce que tu vas le regretter. Mmh. » Et à 2 reprises, j'ai eu quand même cet élan de vouloir remettre un terme à la situation parce que j'en souffrais trop. Et plus je lui disais, et plus il en prenait conscience, et plus il a fait d'efforts, et il a mis des choses en place justement pour se rendre compte qu'il avait mis un couple involontairement, notre couple, en péril.
En danger. Oui.
Et en fait, il a vraiment redoublé d'efforts, et aujourd'hui, il est vraiment On est toujours donc séparés avec nos deux logements différents, mais aujourd'hui on est vraiment dans une optique d'habiter ensemble et vraiment il y a un changement considérable qui s'est fait parce que voilà, j'ai réussi à lui ouvrir les yeux et je me dis heureusement que cette petite voix intérieure m'a dit ne cède pas et crois en ta relation avec lui. Homme que tu aimes, parce que sinon je serais passée à côté de ce bonheur. Et c'est vrai que parfois on fait des choix sur un coup de tête et
après j'aime bien. Merci de ce témoignage, Marie, parce qu'il est très important. On voit bien que parce qu'on veut mettre fin à une souffrance, on peut avoir une attitude qui est contre-productive, parce que finalement, vous auriez eu sur le moment l'impression d'aller mieux. Et alors, il y avait peut-être aussi de l'amour propre, enfin, des choses qui finalement auraient pu vous faire mettre fin à une histoire qui a encore de beaux jours devant elle. Yves-Alexandre Telman, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter?
Je vais rebondir sur ce que vous avez dit, Brigitte, en début de cet échange, en commençant par au risque de vous choquer. Je dois dire que non seulement je ne suis pas choqué, mais je le dis encore plus fortement. Les adultes sont les adultes, les enfants sont les enfants. À 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, un enfant reste un enfant. Et une décision d'adulte est prise en adulte. Et là, moi, ce qui me semble important dans cette situation, c'était pas tellement l'histoire de « on vit ensemble, on vit séparément, j'ai envie de rattraper le temps perdu avec ma fille ou pas », mais c'est « je, papa, vais discuter avec toi, donc Marie, nous, adultes, on exclut les enfants de l'équation, on discute entre nous pour essayer de trouver des solutions, et après, on propose ces solutions à l'enfant ». Et puis, à la limite, on peut même l'obliger. On a une autorité comme parent. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une rupture de confiance, puisque l'homme a pris la décision seul, en fonction de ses intérêts pour sa fille, et ça laisse une trace quand même. Alors, vous voyez, c'est moins la question de j'aurais fait une erreur, pas fait d'erreur. Que j'apprends, là il y a une leçon. Moi dans ce cas-là, j'apprends quelque chose et j'apprends, et j'en discuterai avec cette personne en disant voilà, si on continue maintenant qu'on a des projets de vivre ensemble ou de rapprocher cette relation, de la pérenniser, alors il est important pour moi que les décisions qui nous concernent, on les prenne ensemble. Ça c'est la leçon.
Oui, Marie.
C'est d'ailleurs ce que je lui avais un peu reproché. C'était évidemment qu'il m'en avait parlé. Moi, sur le coup, évidemment, je m'étais dit, il n'y en a pas de solution. Si elle veut ça, je ne peux pas le lui interdire. Et c'était compliqué à son père, au bout d'un an, sans voir sa fille, de le lui interdire aussi. Donc, la décision ne m'appartenait pas à moi seule. Mais c'est vrai qu'il l'a un peu prise... seul de son côté, et c'est vrai que moi j'ai un autre fonctionnement avec mon enfant où je considère que comme Yves-Alexandre disait, un enfant qui est 10 ans, 15 ans ou 17 ans, c'est le parent, c'est les parents qui doivent donner la donne, qui doivent imposer les choses, et il a pas su imposer à sa fille.
Mais Marie, puisque vous êtes assez consciente, assez lucide, moi j'ajouterais même qu'il donne à sa fille qui a 16 ans la sensation d'être en couple. À un moment donné. Et ça, c'est très très mauvais pour sa fille, parce que comment elle va remplacer papa par la suite? Mais enfin, ça, c'est encore une autre histoire.
Oui.
Mais oui. Mais oui, mais c'est vrai. On sait que dans les familles monoparentales, quand il y a un garçon avec sa mère ou une fille avec son père, ça crée des situations assez troubles qui peuvent ensuite avoir des répercussions sur la vie amoureuse de l'enfant. Hein. 16 ans, c'est plus un bébé. Hein.
Tout à fait. C'est pour ça que je vous écoute.
Je voulais dire, j'ajouterais encore une dimension. Ça m'est arrivé de le dire aussi à des personnes qui étaient confrontées à ce type-là de décision. C'est de dire que l'amour maternel ou paternel, il a une caractéristique, et je crois qu'il faut bien l'avoir en tête. Il a comme objectif final, quand on a bien fait le job de parent, la séparation. On élève des enfants pour qu'ils partent. Par contre, on est avec un conjoint pour qu'il reste, hein, si tout va bien. Et avec le temps, on se dit quoi ? Est-ce que j'investis du temps, en l'occurrence ici, puisqu'on voit qu'il y a une sorte de tension, pour une adolescente qui va partir au risque de perdre ma conjointe, oui. Ou bien est-ce que je vais mettre du poids sur cette relation, puisque sur les années qui va nous rester à vivre, espérons qu'on puisse le faire ensemble, et donc je peux investir dans cette relation-là.
Tout à fait.
Il a eu de la chance, hein, Marie, que vous soyez patiente. Et puis, peut-être, hein, encore une fois, on va lui trouver une circonstance atténuante. Il devait peut-être la culpabilité d'avoir quitté la mère de cette fille et que, bon, il
tout
a voulu se rattraper. On va lui donner une circonstance atténuante. Mais bon, c'était important de le dire pour tous ceux qui écoutent. Et puis,
c'était pour apporter un message positif et dire que, on fait tous des choix. Délicat, des fois des choix qui prennent du temps, qui peuvent prendre des années à aboutir, mais la réflexion et s'écouter soi et prendre le temps de s'écouter, de poser le pour et le contre, c'est important que de
oui,
prendre
oui,
des
vous avez
sur le vif.
Oui, sur le vif. Mais en tout cas, le message que vous a donné Yves-Alexandre Talman est intéressant, hein, aborder
fait, oui.
Cette question de est-ce qu'on peut se faire confiance dans l'avenir et prendre ensemble les décisions.
Les décisions, oui.
C'est peut-être la conclusion de votre joli
tout
témoignage, Marie. Merci beaucoup.
Merci en tout cas de m'avoir écouté.
Je vous en prie. Yves-Alexandre Talman, dernière petite pause et puis on se retrouve dans un instant pour conclure cette émission que nous faites. Nous avons le plaisir de faire ensemble.
Sud Radio Apt
95.3
Sud Radio.
On m'a demandé d'être dur, on m'a demandé d'être fort, au point d'abattre ce mur et puis d'en construire encore. On m'a dit faut des blessures, au moins des bleus sur le corps. C'est même à ça qu'on mesure tous ceux qui font des efforts. Ceux qui font des efforts. Sois un homme, un homme qui ne soit pas qu'un homme. Un homme qui ne soit pas qu'un homme. Sois un homme, un homme qui ne soit pas qu'un homme. Moi, j'ai rien demandé. J'ai rien demandé à personne, à personne. On m'a demandé de courir, on m'a demandé de gagner. C'est simple, tu n'as qu'à franchir cette foutue ligne d'arrivée. On m'a dit il faut séduire, toucher les corps, les compter. Que l'important c'est d'en jouir et de brandir le trophée.
Sois un homme. T'as plus qu'à serrer les dents. On m'a dit tu sais quoi faire. Et puis t'es plus un enfant. C'est pour les filles, les manières. Les mecs ça prend pas de gants. Moi, j'ai rien demandé à personne.
Comment être un homme? Comment
Webcam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
22h minuit, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Et je rappelle le titre de ce livre qui est un peu le fil rouge de l'émission aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut être con? C'est aux éditions Marmaga et c'est Yves-Alexandre Talman qui en est l'auteur, qui nous a bien guidés durant ces deux heures pour prendre les bonnes décisions, ou en tout cas à prendre les trop mauvaises et pas trop sur le coup de l'émotion, hein, comme vient de très joliment nous l'exprimer Marie. Il me semble, Arnaud, vous n'êtes pas trop con, hein, ça va, vous arrivez à prendre les bonnes décisions. Bonjour.
Bonjour à vous, merci de me recevoir. Je pense que c'est tout un travail, hein, tout un programme, hein,
ouais,
pour tenter d'apporter un peu de lucidité dans toute cette complexité, je dirais. Moi, pour ma part, j'ai pas trop fait de grosses erreurs. Je crois que c'est resté un peu d'ordre mineur. Donc, du coup, je m'en suis un peu protégé, mais je pense que, comme tout le monde, j'ai fait des expériences et parfois pas toujours satisfaisantes, je dirais, dans la rencontre de son prochain. Et je trouve que le développement personnel permet quand même d'arriver à essayer d'entrevoir quelque chose, déjà de travailler sur soi pour voilà, si on est dépendant affectivement, etc. Ben, je pense qu'on peut avoir une rencontre qui peut ne pas être la bonne, qui nous est pas destinée si on, pour moi, n'est pas dans un plein potentiel.
Alors, il y a une chose dont on n'a pas du tout parlé, et ça m'y fait penser, votre témoignage m'y fait penser, Arnaud. On n'a pas du tout parlé de ce que j'appellerais cette intuition, qui est une sorte comme ça de d'œil laser de notre cerveau, qui va plus ou moins nous guider vers ce qui est bon pour nous ou pas. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Yves-Alexandre Talman? Je suis pas sûre que vous soyez très d'accord, d'ailleurs. Vous connaissez.
En fait, oui, je crois beaucoup à l'intuition, mais dans sa définition scientifique, pas dans sa dimension plutôt
magique,
ésotérique,
oui,
ou magique. Autrement dit, c'est pas tout d'un coup une décision ou une information qui nous vient de on ne sait où, on ne sait où. Mais par contre, ce qui est important, c'est que on a l'intuition qui peut s'entraîner. Autrement dit, on peut devenir expert. De la même façon que si je vais avec un bruit bizarre dans mon moteur chez le garagiste, il n'a pas besoin de faire toute une analyse logique, mais il aura quelque chose qui va très vite lui arriver en conscience et il saura, hein. Donc, ça veut dire que quand on automatise certaines prises de décision, après, on peut avoir des réponses qui viennent de façon fulgurante dans notre cerveau. Mais on sait d'où, hein, quelque part, c'est de cette accumulation d'expériences. Et ça me permet de dire que justement, et là je rejoins Arnaud, toutes ces expériences, alors plutôt que de parler d'erreurs, de mauvaises décisions, on peut effectivement parler d'expériences, nous sommes des êtres apprenants, elles viennent nourrir hein, cet ensemble de connaissances qui nous permet ensuite de peut-être percevoir de plus en plus rapidement les options qui sont plutôt favorables pour nous. Et dans ce sens-là, oui, on peut parler d'intuition, c'est-à-dire d'informations qui nous sont, qui apparaissent dans notre champ de conscience sans forcément qu'on ait nourri une réflexion logique, laborieuse et systématique.
Donc vous seriez d'accord pour dire que finalement l'intuition, c'est une capacité rapide de connecter nos différentes cellules du cerveau et de, ouais, trouver là un peu comme une intelligence artificielle, quoi.
Oui, ce serait faire un cas un peu trop grand de l'intelligence artificielle à mon goût, mais je pense que notre cerveau est beaucoup plus capable de faire ceci, mais ça c'est un autre débat.
C'est un autre débat. Arnaud, je vous redonne la parole, pardon.
Ouais, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, et bien sûr, je pense que pour avoir, je crois aussi beaucoup en intuition, et je crois que pour avoir une intuition bonne, il faut ne pas être dans un excès d'émotion, et je pense que ça aussi c'est une expérience à faire, hein, l'intuition, quand est-ce qu'elle est bonne, quand le ressenti est-il bon, et je pense que c'est tout un programme aussi, et je pense que, entre guillemets, pour moi, mes expériences m'ont appris que l'excès d'émotion parfois ne pouvait ne pas perdre le regard juste quant à nos ressentis. Je crois que c'est ça, c'est compliqué à sentir et à entrevoir, je crois.
Oui, mais vous avez raison. On dit d'ailleurs qu'il ne faut jamais réagir et prendre une décision sous le coup de l'émotion.
Exactement, et je pense que quand on parle d'amour et quand on parle de relations justement, ou quand l'amour vient galvauder un peu ce regard ou cet œil juste, eh ben il y a besoin de prendre tout ce recul-là nécessaire selon moi, parce que voilà, l'amour rend aveugle et bien sûr qu'un excès d'émotion peut justement camoufler certaines choses qu'on peut pas voir et se retrouver dans de bien beaux draps une fois qu'on s'en rend compte, souvent trop tard selon moi.
Oui. L'amour rend aveugle, mais le mariage lui redonne la vue. Alors, l'amour rend aveugle, je crois que c'est une phrase un petit peu dure quand même. Je crois que l'amour peut aussi nous permettre de prendre confiance en nous, peut nous permettre de nous découvrir. Parfois, on va aller vers telle personne par une sorte justement d'intuition, que c'est la personne qui va nous permettre d'aller dans la direction qui nous convient, non? Soyons un peu positifs quand même sur l'amour, Yves Alexandre Tellman.
Je suis aussi positif sur les émotions, tout en considérant la nuance qu'Arnaud vient d'amener. On pourrait dire que nos émotions, il faut quand même les écouter. Mais attention, elles ont une voix consultative. Ne leur laissons jamais une voix décisionnelle. Donc écoutez les émotions, mais ne pas les suivre à l'aveugle.
Exactement. Bon, et ben c'est sur cette sentence que nous allons conclure cette émission. Merci à vous, Alexandre Tellman. N'hésitez pas en tout cas à lire Alexandre Tellman, c'est toujours très très instructif. Merci beaucoup, Arnaud. Et puis bravo, hein, vous êtes philosophe. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevan. Demain, on sera avec Samuel Doc et on va essayer de comprendre pourquoi on a tant de mal à dire non et comment on peut apprendre à dire plus facilement non. Ça aurait pu être aussi un sujet pour vous, Yves-Alexandre. Merci en tout cas. Et puis je vous embrasse et je vous dis à demain.
Sud Radio Bayonne.
103.9.
Sud Radio.
Ne serait-ce qu'une fois, hélas. Ne serait-ce qu'un instant fugace. Les mains sales, les ongles pleins de crasse. Aurais-je su toucher la grâce? Ne serait-ce même qu'en surface, avec le bout de la godasse, comme on pousse une vieille carcasse. Aurais-je su toucher la grâce? Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Aurais-je sans la voix cherché, parler devant, parlant de moi? Ne serait-ce que de guerre lasse, sans ne plus y croire des masses, tabassé par la vie qui tabasse? Aurais-je su fondre la glace, trouver une voie dans les congères, jusqu'au cœur de mes congénères, avant que je tombe en disgrâce? Aurais-je effleuré cette grâce? Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Trouver la part d'humanité qu'on a tous indifféremment.
Sud Radio.
Sud Radio.
Jusqu'au bout du monde. Jusqu'au bout du monde.